Sérieux. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
7h56, Denis Revel qui est absent ce matin. David Chabot qui frappe en relève notre chroniqueur international. May the fort be with you, David.
Salut, oui.
Content de te voir.
Yes.
Tu passes une belle fin de semaine?
Oui. Écoute, le hockey a pris beaucoup de place.
Ah, oh, il y avait du hockey hier soir?
Ben oui. J'avais consulté mon médecin. J'ai dit, là, tu dois écouter les trois périodes. Il m'a dit, essaye d'en prendre juste une. Le reste, c'est trop tough pour le cœur.
Hey, moi, j'ai failli mourir en deuxième période. Là. Aucun tir au but de la part du Canadien de Montréal. Même dans le power play.
Non, il n'y avait rien qui allait.
Ouais. J'ai jamais vu ça.
Offensivement, c'était triste.
Tabarouette, on va-tu passer au travers? Puis le but d'Alex Newhook, on s'entend-tu que c'est un tir de n'importe quoi?
Ah oui. Mais moi, sincèrement, j'avais un peu fait mon deuil là, au début de la troisième. Elle me disait, bon, c'est correct. Ça aurait été une bonne série. Puis là, finalement, Tling Lang, ça passe.
Ouais. Puis vois-tu, moi, je me disais, au contraire, sont à un jeu chanceux de gagner la game tellement que Dobesch était dominant devant le Philippe, c'est ça qui est arrivé.
Ouais. Ça, Dobesch, là, ça, c'est le gars qui pleurait parce qu'il avait pas des belles performances au début de l'année.
Je l'ai dit.
Aujourd'hui, c'est le gardien de l'heure dans la Ligue nationale
c'est
de
ça.
Hockey.
Arrête d'être toxique, Marceau. En pleurant puis en montrant tes émotions, tu vas performer au deck hockey.
Bon, Max, quand tu perds un Pokémon, t'as le droit de pleurer. Je m'excuse pour tantôt.
Mais hier, Jakub Dobesch pleurait quand on a gagné.
Aussi?
Oui.
T'as le droit
d'être
émotif,
Max, des deux bords. Quand il est triste, quand il est content, il pleure.
Oui. Sauf que lui, il pleure pour des games de hockey. Il pleure pas pour des Pokémon.
Mais j'ai jamais pleuré pour des Pokémon non plus. Pas d'où tu sors ça. Là.
Ben là, t'étais émotif un peu. Là. Hier, t'étais dans le parc Henri Cazot, puis là, t'as fait tes deux chasses de Pokémon.
Non, ben je faisais de la chasse. Là, tu mets les affaires. Je faisais de la chasse aux Pokémon. Je n'ai capturé plusieurs.
T'en as capturé?
Et j'ai.
Les as-tu dressés?
Ça vient ensemble. Là. Et parmi les Pokémon que je possède, j'en ai utilisé pour conquérir les deux arènes du parc Henri Cazot. Ils sont à moi maintenant.
Les deux arènes sont à toi?
Les deux arènes du parc Henri Cazot.
Mais là, comment tu peux les perdre? Comment tu les protèges?
Ben, moi, j'ai laissé des Pokémon là pour en faire la protection.
Ouais.
Puis si quelqu'un réussit à me battre, ils vont les reprendre. Mais moi, je vais retourner les chercher. Puis on va se.
Mais quand ils essayent de les prendre, tu deviens-tu en combat? Ça sonne-tu sur ton téléphone? Hey, fight de Pokémon!
Là, sûrement, ça fait pas assez longtemps que je joue. Là, mais
tu vas-tu être prévenu quand il y a quelqu'un, un fou, qui va aller se battre avec les Pokémon là-bas?
Ben, je vais le savoir parce que mon Pokémon va revenir à la maison. Fait que là, je vais savoir que. Non, je le perds pas. C'est juste qu'il faut que je donne des petits bonbons pour qu'il reprenne son énergie.
T'es épouvantable. Hier après-midi, il faisait beau. Il faisait pas super chaud, mais il faisait beau. Il y avait plein d'enfants dans le parc Henri Cazot. Puis il y avait un monsieur barbu avec une calotte des Foreurs de Val-d'Or. Puis probablement son gilet du Canadien qui se promenait, qui faisait la chasse au Pokémon.
Il y a un Pikachu! Non, je ris pas là-dessus. Pour vrai,
c'est un hobby comme un autre.
Est-ce que tu cries Bulbasaur quand
je
tu es en
pognon? Je crie pas. J'ai l'air normal. J'ai l'air d'un jeune de nos jours qui marche en étant sur son sel. C'est, fait que c'est...
Puis tu tournes en rond dans le parc Henri Cazot?
Ben là, c'est ça. J'ai pas osé faire des tours en rond. Puis tu sais, j'aurais pu rester là longtemps. Puis, mais j'ai juste fait un tour.
Ouais. C'est vrai que là, rester là longtemps puis tourner en rond, c'est plus louche
mais,
un peu.
Mais ça, tu sais, le moment où je faisais l'acquisition de la reine, là, j'étais vraiment arrêté. Tu sais, faut que je reste là.
Oui.
Là, j'étais debout puis là, j'avais l'air de regarder les enfants se balancer.
Puis la police, tu expliquais ça comment?
Mais ben là, la chance que j'ai, c'est que j'ai ma barbe des séries. Fait que j'ai pas de moustache. Parce que si j'avais la moustache, peut-être que les flics seraient débarqués.
Ça aurait été pire. Fait que bref, t'as aimé ton match hier?
Oui. Là, je pense que contre Buffalo, ça va être plus rough, mais en même temps.
Mais c'est le fun à la grandeur du Québec, que le Québec vibre comme ça. C'est Planète Hockey ici, c'est notre sport national. J'ai trouvé ça de toute beauté hier, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les restaurants, les bars, les chaumières. Tout le monde tripait à regarder ce match du Canadien qui était... Somme toute assez ordinaire comme match, là, mais la pression était tellement là.
Oui, puis je te dirais qu'une entreprise qui avait une mauvaise nouvelle à sortir, c'était hier soir, pas pire autour de 7h.
Ouais, toi, c'est à ça que tu penses. Hein? On travaillait en politique, là, tu penses tout le temps à ces affaires-là.
En relation publique, puis tout ça. Là, des moments comme ça, c'est des éclipses, là, fait que là, tu t'en sers pour te faufiler. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de mauvaise nouvelle tant que ça, mais des fermetures d'usines, des choses comme ça, là, en plein milieu d'une game de game set, là, ça se passe bien.
Ouais, Donald Trump, il s'est-tu choqué? Là, on me dit qu'il y a des bateaux dans le détroit d'Ormuz qui sont là, qui sont pris depuis déjà quelques semaines, qui seront escortés par des Américains. Et Donald Trump dit, si jamais l'Iran s'en mêle, ça va mal aller. On en est rendu où, là? Est-ce que c'est des menaces qui sont sérieuses? Est-ce que c'est est-ce qu'on reprend le cours des choses, c'est-à-dire on va faire passer des pétroliers ou c'est juste des bateaux qui n'ont rien à voir avec le conflit qui vont passer?
Bien, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va jouer au taxi pour les navires qui sont pas impliqués dans le conflit. Fait que là, c'est qui, c'est quoi? Bon, mettons un navire de l'Indonésie qui amène, je sais pas, les pièces détachées de quelque chose, il va pouvoir passer. Il va être escorté par les navires américains. Mais ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'il y a quelques jours à peine, Donald Trump est au Congrès pour dire « La guerre en Iran, fini. Fini, il n'y en a plus, on n'en parle plus. »
Mais il nous avait donné deux semaines.
Ouais, ben tu sais, deux semaines pour aplatir la courbe. C'est ça le running gag, mais il est allé au Congrès justement pour leur dire que c'était fini. Fait que là, si c'est fini, normalement, tu devrais être capable de naviguer pas pire. Mais là, ce qu'on se dit ce matin, c'est « Non, non, mais je vais les accompagner. Mais c'est fini. Mais je vais quand même pas prendre de chance. Mais il y a peut-être des mines, mais il n'y en a plus. » Puis là, les drones, ils vont peut-être décoller, mais on a détruit leur capacité. Parce que le nucléaire, il est pété pour 10 ans, mais dans il y a 6 mois, on disait qu'il en restait encore pour 2 semaines. Tu me suis-tu?
Oui, je te suis.
Moi, je me suis pas.
Il peut toffer combien de temps sans demander l'aide du Congrès?
Ben, c'est 60 jours avec une prolongation possible à 90.
Puis on est rendu où, là?
Là, c'était le 60 jours, justement, que la cloque a roulé, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'il est allé au Congrès pour dire...
Oui, mais attends, il y a un cessez-le-feu. Ben, ça compte pas.
Ben, c'est ça,
l'affaire. On arrête le chrono, là. Le chrono est arrêté depuis le 9 avril. Il y a eu un cessez-le-feu.
Il va se faire challenger parce que, tu sais, on le sait, là, l'armée américaine peut s'engager dans un conflit ou en tout cas une escalade temporaire pendant 60 jours sans avoir l'approbation du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui contrôle le budget, finalement. Le président est commander-in-chief, mais le Congrès contrôle l'argent. Donc là, il faut que tu payes tes soldats, il faut que tu payes ton armement. Donc c'est comme ça qu'ils ont le contrôle sur les guerres. Donc après 60 jours, tu es censé demander la permission. Mais Trump n'a pas demandé la permission, il a dit « c'est fini ». Donc là, techniquement, il n'est pas censé repartir. Sauf qu'évidemment, le setup est gros comme la Terre. Là. Il va juste dire « Ah, mais là, c'était fini, mais là, l'Iran n'a pas respecté le cessez-le-feu. » Fait qu'on en repart sur un autre 60 jours. Puis là, ben, il y a des gens de congrès, là, les congressmen, qui disent « Ouais, mais attends un petit peu, t'es en train de jouer avec les cordes du règlement, là, parce que c'est pas ça l'esprit de tout ça. Là. T'es censé faire 60 jours pour arrêter. Là, c'est 60, on arrête, 60, on arrête, ça marchera pas. » Donc, il va se faire challenger là-dessus, incluant certains membres du Parti républicain qui sont pas étonnés de cette guerre-là. Parce que, tu sais, tout le monde se questionne à quoi ça sert pour les États-Unis de faire cette guerre-là. En ce moment, le prix de l'essence est plus cher. L'inflation est repartie en vrai. Là, la Banque du Canada, d'ailleurs, la semaine passée, a dit que c'est pas écarté d'augmenter les taux d'intérêt. Banque du Canada aux États-Unis, c'est pas pareil, mais on se comprend qu'on est assez liés. Donc là, une chose dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de gain net, comme dirait un certain maire de la ville de Québec. Il est où le gain net? On le voit pas vraiment, le gain net, en ce moment-là. Donc là, qu'est-ce que ça va donner? À voir.
À voir. C'est à suivre. On va surveiller la bourse pour ce qui est des prochains jours.
La bourse, le prix du pétrole, ouais. Le baril va repartir en vrai.
Le S&P 500, il est en feu ces temps-ci. Là. La semaine passée, ça a monté pas pire.
Oui, puis là, je suis pas conseiller financier, on se comprend, mais le high-tech genre Nvidia là, pète tout.
Oui, ça monte en haut.
C'est
ouais.
Ça qui tire tout par en haut pas mal, là, parce que tu sais, la rentabilité des entreprises moyennes est quand même pas si mal, mais on voit qu'il y a certains secteurs, comme justement la fabrication de meubles au Québec, qui ont vraiment mangé une volée avec les tarifs. Mm. Là. Le S&P 500 est pas mal basé aux États-Unis, mais tu sais, il y a des secteurs qui trouvent ça tough. L'industrie automobile, puis avec les voitures chinoises qui s'en viennent dans pas trop longtemps, là, les fondamentaux dans beaucoup d'industries sont fragiles. Mais le tech tire tellement fort que le S&P 500 pète tout.
Toi qui as travaillé en politique, là, vous perceviez comment les syndicats dans votre entourage? Est-ce que vous deviez constamment être en contact avec eux? C'est-tu des gens que vous côtoyez au day-to-day? C'est-tu des gens qui vous appellent régulièrement? Magali Picard semble emmener vraiment large avec la FTQ au Québec. Puis là, on apprend, c'est dans la dernière semaine, on apprend qu'elle est sur un comité où elle va assister Mark Carney pour les négociations avec les États-Unis puis le Mexique. C'est-tu la place des syndicats dans ce type de négociations-là?
Bien,
en 2026, là?
Au quotidien, là, tu sais, j'ai pas été au gouverneur provincial, là, mais les syndicats...
municipal?
Oui, c'est ça. Donc là, on était beaucoup plus en proximité.
Mais ils cognent-tu à la porte à tous les jours?
Pas à tous les jours, mais tu sais, il y avait eu une négociation avec le service de police pendant que j'étais là, puis là, ben, le chef du syndicat a cogné à la porte pour aller parler avec le maire, puis le maire a dit « T'as peu, là, c'est une négociation, l'administration s'en occupe, le politique ne devrait pas s'impliquer là-dedans, parce que forcément, si le politique prend parti dans une négociation entre le syndicat et l'employeur, qui est la ville, ben il va faire un mauvais choix. Peu importe ce qu'il fait, c'est un mauvais choix. Fait que mêle-toi-en pas, puis reste loin, c'est ça la règle de base. Au provincial, c'est sûr que le ministre du Travail a un rôle un peu plus engagé engagé dans tout ce qui se passe avec le syndicat. Il doit souvent s'impliquer dans les négociations de conventions collectives. Des fois, il peut briser des grèves pour dire que l'intérêt collectif doit primer. Les amener en négociation, c'est pas une mauvaise idée en soi, dans la mesure où ce que c'est fait de bonne foi. Puis là, évidemment, c'est tout le temps ça qui est questionnant, tu sais, parce que, bon, là, il y a eu le geste d'éclat en fin de semaine avec la tête qui roule.
Avec la guillotine. Tu sais, puis... Alors, je nommerai pas de nom, ça n'a pas de maudit bon sens, là, mais quiconque a déjà croisé Jean Boulay, là, c'est le gars le plus tranquille qui soit. Il est sympathique, il te regarde dans les yeux, il est analytique, il est doux. C'est loin d'être un bully, ce gars-là.
Ben, hein.
Tu sais, mettons que tu prends, un, je sais pas moi, un ministre qui est un maudit baveux, puis là, il se ramasse la tête sur une guillotine. Tu dis, ouais, OK, puis il les a vraiment poussé à bout. Mais Jean Boulay, là, c'est le petit chat qui est dans le coin de la de la chambre puis qui te regarde, là, tu sais. Puis il fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Il fait son travail.
Ah oui, c'est pas Gaétan Barrette, non, on se comprend.
Exact. Mais c'est ça, c'est pas cette personnalité-là. Qu'est-ce qu'il fait sur une guillotine à Montréal
Une
manifestation?
C'est le symbolique. Hein? 100% symbolique. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été Marceau, on aurait fait la même affaire, je pense. Un peu délicat quand même, parce que, tu sais, Pierre Laporte, ça fait pas si longtemps que ça qu'il s'est fait tuer dans un coffre de char par
en effet.
FLQ.
70?
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pas la même cause, on se comprend. FLQ, syndicat, je veux pas faire d'amalgame, mais ça reste que, tu sais, au Québec, il y a cette fragilité-là par rapport à l'histoire.
Moi, je me demande pourquoi ils sont pas poursuivis en justice. On a les vidéos.
Ben, tu sais...
T'es fait porte-plainte?
Ben,
envoie ça aux policiers. Ben, c'est parce qu'ils sont protégés par les syndicats? Porte-plainte. T'es Jean Boulay, tu porte-plainte. Atteinte à ma vie.
Ben, oui.
C'est des menaces de mort, ça, là. Tu coupes la tête de quelqu'un.
Porter plainte, ça, je suis d'accord. Je pense pas que ça irait très loin, là, parce que, tu sais, liberté d'expression, machin.
Ben, c'est pas de la liberté d'expression, ben, ça. Moi, si j'écris à Jean Boulay, je vais te tuer, mon assi.
Ben, c'est ça. Là. C'est une menace qui est diffuse, mettons, là, parce que là, les syndicats vont dire, ben, en tout cas, les syndiqués, parce que là, je comprends que les syndicats ont dénoncé, mais vont dire qu'ils s'attaquent au symbole. Puis là, c'est lui qui était porte-étendard. Il voulait pas s'attaquer au ministre directement. Je pense pas que ça irait très loin. Par contre, être le ministre, je le ferais pour donner un statement.
Ben oui, pas le choix. Parce que, tu sais, on est encore très faible devant la force syndicale, là, si on fait rien. Là.
Ben oui, c'est ça. Là,
Christine Fréchette qui sort. Les syndicats ont dénoncé. Est-ce que je cherche? Ils n'ont pas fait de point de presse commun comme quand ils veulent dénoncer une décision du gouvernement. Là. Ils n'ont pas levé les masses en l'air. Là. Ils ont juste dit « Ah, c'est un geste regrettable dans un communiqué écrit. » Mais c'est soft là, comme réaction. Là.
À l'échelle des syndicats, c'est gros en sacrifice, par exemple. Ils font jamais ça.
Puis, tu peux-tu le sacrer dehors? Je sais pas où il travaille, ce gars-là, mais pour faire une caricature du genre là, comme ça en public, tu peux-tu le sacrer dehors?
Ben, écoute, là, je connais pas le fonctionnement interne d'un syndicat.
Parce qu'il fait mal paraître le syndicat.
Assurément, je dirais...
Son nom va sortir dans les prochaines heures. C'est sûr que le nom du gars va sortir dans les prochaines heures. C'est un party, il prenait une bière, il a décidé de fabriquer une guillotine avec une poupée de Jean Boulay, ministre du Travail, puis il a décidé d'y couper la tête, puis après ça, botter la tête. C'est une caricature, mais ça... Ça n'a pas vraiment de sens, puis il fait mal paraître ton syndicat. Ouais. Son nom va sortir dans les prochaines heures.
C'est ça qui est difficile pour les syndicats, justement, c'est qu'ils jouent beaucoup sur l'émotion dans leurs négociations. Ils vont dire on se fait manger la laine sur le dos, puis l'employeur, souvent le gouvernement, là, ils ont de l'argent pour nous payer, puis ils veulent pas parce qu'ils veulent mettre de l'argent dans Nordvolt. Puis là, ça joue beaucoup l'émotion. Fait que là, tu crains que ta gang, ta base militante, pour aller chercher ton vote d'adhésion, puis rester dirigeant du syndicat qui a des jobs quand même assez bien payés en haut, là, on se comprend. Fait que là, tu brasses tout ça pour après ça avoir des comportements comme ça dans une manifestation, puis revenir en arrière en disant « Ah, ça, c'est déplorable. » Mais t'es un petit peu responsable aussi du climat que tu crées là-dedans. Je te dis pas que les chefs syndicaux portent sur eux autres là, d'avoir fait ce geste-là directement, mais t'sais, pose-toi des questions sur le climat que t'as. Puis les vieilles méthodes là, de menaces puis de violence puis tout, là, ça va être correct. Là.
On est-tu trop fragile?
Fragile dans le sens d'être
choqué. Les gens ont été outrés de ça. T'sais, moi, je remets ça dans le contexte. Là. C'est une gang de joyeux lurons qui buvaient de la bière et qui ont décidé de faire ce geste-là. C'est une caricature. Là. Est-ce que c'est un geste qui est violent? Il y en a qui le récupèrent en disant que c'est un geste qui est ultra violent. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est des gars et des filles qui s'amusaient et qui n'ont pas pensé nécessairement.
Ben, c'est très prémédité. Là. Je veux dire, la guillotine, il a fallu que tu la prépares. Là.
Ouais.
Mais tu sais. Écoute, là, c'est, à mon sens, c'est anecdotique au sens où que, bon, okay, c'est un symbole. Il y en a toujours eu, là, des espèces de poupées de papier mâché dans des manifestations. Souvent, c'était pour faire mal paraître parce que là, tu faisais une grosse caricature de justement Gaétan Barrette qui était immense ou bien Jean Charest qui avait les cheveux frisés en ramen dans le temps. Là. Fait que là, tu sais, ils servent de ça beaucoup. Là, il a peut-être échappé, est allé un petit peu trop loin, mais tu sais, je pense pas que c'était une vraie menace directe pour le ministre. Par contre, je suis d'accord avec Jeff que je ferais une plainte pareille. Parce que politiquement, t'as un gain à faire là-dedans. Tu veux pas faire la grande victime puis sortir sur Instagram en pleurant. Là. Tu veux, tu sais, je veux dire, t'es pas Jacob Dobesh, là, sauf que t'sais, je veux dire, tu veux quand même faire le statement de dire que le ministre est plus fort que ça puis il se fera plus.
Encore là, c'est le ministre Pleure va gagner.
Peut-être. Peut-être.
Oui, Grim, d'auberge gagne.
Ouais, ou pogner le meilleur Pokémon.
Drainville n'a pas gagné.
Non, c'est ça. Max va nous parler d'Alex Boissonneau qui a décidé aujourd'hui de faire une sortie en règle en ce qui a trait à Christine Fréchette en disant qu'elle était beaucoup trop timide avec Ottawa. Max, c'est quoi on reproche exactement à Christine Fréchette?
Ben, c'est que dans les derniers jours, dans une entrevue éditoriale avec le bureau parlementaire du journal, ce qu'elle a dit Christine Fréchette, c'est qu'elle ne voulait pas déchirer sa chemise d'emblée dans ses échanges avec Ottawa, d'y vouloir privilégier une collaboration plutôt qu'un ton plus combatif. On parlait de Jean Boulay, lui, ministre responsable des relations canadiennes. Ce matin, il y a une entrevue qui paraît avec la presse dans laquelle il parle de cette nouvelle approche-là basée sur moins de confrontation et plus de collaboration. Puis ce que dit Alex Boissonneau et le Parti québécois, c'est que c'est un ton passif qui risque de venir affaiblir le rapport de force du Québec face au fédéral. On dit que la posture de Mme Fréchette, ben, c'est une posture de rouge, une posture passive, conciliante. C'est qu'Ottawa dicte l'agenda. Québec réagit de façon très conciliante, du bout des lèvres, en demandant qu'on respecte nos champs de compétences. En fait, ce que le PQ dit, c'est qu'on s'écrase devant Ottawa, puis ça ne nous rapportera rien de bon.
Et ça, c'est en ce qui a trait aux montants qui ont été octroyés pour la formation des gars en construction.
Mm-hmm.
Puis ça semble bien fâché à Alex Boissonneau. Alex Boissonneau, est-ce que ils vont se servir de ça? Ils vont se trouver un ennemi anglophone au Canada, le PQ? C'est ce qu'ils vont faire. Ça va être le vilain, ça va être l'anglais dans l'Ouest canadien.
Ouais, c'est 100% des péquisteries, là, cette sortie-là. Là. C'est correct. Ils jouent sa game. Là. Le PQ, en ce moment, je pense que le momentum est en train de glisser un peu. Le Parti libéral présente des bons candidats. On voit que dans les sondages, on est à nez. Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand t'es le PQ pour réanimer la flamme pour aller passer au parti? C'est de te chicaner avec la fédérale. Donc là, ils cherchent juste ça. Regardons les dernières années. Là. J'ai pas tout fait de la liste de ce qui a été fait. Là. Mais tu sais, il y a eu une grosse chicane sur le financement de la santé. Finalement, il y a eu un transfert de 1 milliard de mémoire qui avait été fait.
C'était pas à la hauteur de ce que François Legault voulait au départ.
C'est ça. Fait que là, il était fâché, puis c'était à la faute du fédéral. Après ça, le financement du tramway passe beaucoup par le fait que les enveloppes du fédéral qui sont prêtes sont pas vraiment rendues au provincial. C'est à la faute à qui, je le sais pas, dans les officines gouvernementales, mais il y a une chicane là-dedans aussi pareil. Le troisième lien, c'était pareil aussi. Le financement de tout ça, le fédéral. Oui, non, les champs de compétences, c'est nous autres le transport. Il y a ça dans tous les cas où il y a du financement partagé. Puis là, il y a le fond puis la forme. Sur la forme, se choquer contre le fédéral, comme on dit, c'est payant politiquement. Christine Fréchette a rentré puis a dit bon, écoute, moi, je veux pas me chicaner avec eux autres, je vais essayer de trouver des ententes.
Elle a dit pour l'instant.
Oui, c'est ça. Fait que là, elle se garde une porte, mais en 6 mois, c'est une job d'été, elle n'aura pas le temps de se fâcher souvent. Fait que là, tu sais, bon, on va commencer avec l'approche plus conciliante. Je pense que c'est des meilleures négociations dans ce temps-là. Fait que ça, c'est sur la forme. Sur le fond, disons-le pareil, depuis des décennies, le gouvernement fédéral empiète sur le champ de compétences provinciales. Le Max, ça va de la musique à tes oreilles. De dire que, justement, en santé, il y a du financement qui est attaché à des conditions. C'est ça le gros enjeu. Il faut juste être sûr qu'on le comprenne. C'est pas tant que le fédéral ne donne pas d'argent ou ne met pas d'argent sur la table. C'est qu'il dit cet argent-là vient avec mes conditions. Puis là, la province a dit je m'en sacre de tes conditions parce que c'est mon champ de compétences.
C'est ça, c'est mes compétences à moi.
Donc là, tu n'es pas censé mettre de strings attached en bon canadien-anglais. Tu es censé me laisser l'argent que je paye avec mes impôts qui revient, dans le fond, ou qui n'est pas censé partir tout court, pour que je puisse faire ce que je veux avec. Donc là, la chicane part toujours de ça. Puis le truc sur la formation des travailleurs, ça n'a rien à voir avec les compétences du fédéral. C'est rien. C'est du développement économique national puis les intérêts nationaux avec la construction de logements. Je suis vraiment d'accord avec ça. Sauf qu'il n'y a rien à voir avec les champs de compétences fédérales là-dedans.
T'aurais dit quoi à Christine? T'es son conseiller politique, là, principal. Tu lui dis que c'est le temps de montrer qu'elle a des dents. Là.
Ben,
parce qu'elle a 5 mois pour se préparer aux prochaines élections.
Je pense que, mettons, on se parle vraiment là, en stratégie politique.
Tu dis, vas-y, c'est là, là.
Ben oui, parce que tu regardes les sondages, Mark Carney, il est en train de monter, tout le monde l'aime bien, c'est un grand gestionnaire, c'est un banquier raisonnable qui a fait toutes les études du monde. Quand tu te pognes avec, ben, t'es-tu la personne qui comprend ce qu'elle fait ou t'es la personne qui comprend pas les enjeux puis qui se pogne avec le gars qui le sait? C'est dangereux. Là.
Christine Fréchette aussi essaye-t-elle une stratégie différente de François Legault? Puis je m'explique. Mm-hmm. Legault a pris le pouvoir parce que le PQ était tombé dans déchéance.
Ouais.
Là, le PQ veut pas. Il y a quand même un noyau fort avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On le voit, même si ça descend dans les sondages, on est dans un 29-30%. Je pense qu'elle vise plus les électeurs du PLQ présentement.
Oui, mais en fait, il cherche un peu, tu sais, la fameuse troisième voie, là, il est en train de s'effriter, parce que ce qui a vraiment été bon pour le brand de la CAQ, c'était l'autonomisme, là, de dire que nous autres, on se tient comme une province, mais on est dans le gouvernement fédéral puis on va négocier les meilleurs deals. Puis les meilleurs moments de François Legault, oui, ça a été la pandémie, mais ça a été de dire « Justin Trudeau, c'est un ci, puis c'est un ça, puis moi, je vais aller vous défendre. » Puis Justin Trudeau, c'est une cible facile, là, c'est un peu coco qui ne comprenait pas grand-chose. En tout cas, l'apparence de...
Là, c'est différent avec Carney.
Ben, c'est ça, le tarif avec quelqu'un qui comprend sa game. Je comprends qu'il n'est pas parfait, puis ça reste qu'il est quand même jeune comme politicien, il fait des erreurs des fois de jugement, mais t'arrives devant lui publiquement, puis tu lui dis « t'as rien compris », ben c'est toi qui as l'air un peu fou.
T'sais. Ben oui, parce que là, il est au-dessus de 50% de cote d'amour au Québec. Là.
C'est ça. Fait que tu sais, je pense que Christine Fréchette prend la bonne ligne en ce moment. Il faut qu'elle se pogne avec quelqu'un un moment donné, mais pas nécessairement avec le premier ministre du Canada qui a quand même les cordons de la bourse dans les mains, là. Je pense que c'est le temps de justement démontrer que tu es capable de négocier, tu es une deal maker, tu es capable de faire avancer les intérêts du Québec, même si le fédéral ne cassera pas demain matin parce que tu n'es pas souverainiste. Fait que là, tu vas boiter un petit peu l'enjeu du souverainiste dans la cour du PQ. Tu leur dis, toi, tu es le séparatiste, là. Tu sais, t'es méchant, t'es chicanier, là, tu veux qu'on se sépare. Excuse-moi, Max, mais t'es chicanier, c'est ça que je te dis. Mais,
chicaneux.
Pour le reste, tu sais, on voit dans les sondages, la majorité de la population ne veut pas la souveraineté. Là. C'est 65% qui sont contre la souveraineté. Mm-hmm. Donc, tu dois t'aligner envers ça en disant, nous, on va être dans le Canada, mais on va défendre le Québec, puis on ne sera pas à terre comme un tapis, comme le PLQ. C'est pas mes mots, là, c'est ce qu'elle doit dire.
Oui, oui.
On se comprend?
L'Union européenne qui dit à Mark Carney, viens-tu danser un beau grand slow?
Ouais, un beau grand slow collé. Mais ça, je t'avoue que je comprends pas. On se rapproche d'eux autres économiquement, ça, je le comprends à 100%. Parce que là, on la connaît, la toune, là, tu sais. On chicane avec, justement, on chicane avec Donald Trump. On veut se donner d'autres options. On s'est rapproché de la Chine. On est allé en Asie du Sud-Est. On est allé en Inde. Puis là, on est en Europe. Donc là, la négociation économique, parfait, j'en suis. Là, il y a comme des rumeurs, des allégations, des en tout cas, qu'on se rapprocherait de l'Union européenne pour peut-être même en être membre. Puis ça me dépasse complètement parce que tu veux pas être membre de l'Union européenne. C'est vraiment le zoo. Tu perds le contrôle de ta monnaie, tu t'en vas dans un parlement européen dans lequel tu serais le seul en Amérique du Nord, que ton pouvoir serait totalement dilué dans le reste. C'est compliqué avec la gestion de l'armée et les frontières. Pour nous, ça serait un peu moins un enjeu, mais tu serais peut-être dans l'espace Schengen, là, qui est comme l'espèce de pas de frontière européenne, là, où est-ce que tu peux circuler d'un pays à l'autre. Est-ce que tu serais inclus là-dedans ou pas? Il y a comme plein de questions qui restent flottantes dans tout ça, mais à mon sens, fais pas ça. T'sais. Va pas te mettre le doigt dans un engrenage qui marche tout croche, qui manque d'huile puis il y a du sable partout. Là. Reste indépendant, autonome. Fais le meilleur deal économique que tu veux. Je pense qu'on est dû pour évaluer du semi-libre-échange. Là, ça n'existe pas tant, le vrai libre-échange dans la vie, mais t'sais, va plus loin avec l'Union européenne, puis t'sais, pogne-toi pas juste sur des histoires de fromage. Là. T'sais, vois ça at large, t'sais, avec vraiment les matériaux de base, l'aluminium, l'acier, puis même des façons d'exporter peut-être l'hydroélectricité, de la batterie ou je sais pas quoi. Avance là-dedans, mais va pas te mettre membre de ça. Là. C'est, non.
Ça se peut que ça déplaise au monsieur Orange.
Ben oui, oui.
C'est que ça te donne rien aussi.
Non, c'est ça, c'est que nos intérêts canadiens ont 0-0 alignement.
C'est ça, ce que tu nous expliques, c'est au-delà de Donald Trump, c'est qu'on embarquerait dans un zoo, puis ça vaut pas la peine d'aller mettre les deux pieds là-dedans parce qu'on sortirait perdant en bout de ligne.
Ben, regarde, je veux dire, avec la guerre en Ukraine, t'as Macron qui voulait envoyer plus d'armement en Ukraine, puis le Parlement voulait pas. Puis il était pogné avec ça, puis il dit, moi, défendre-moi le droit d'aller en Ukraine. Tu sais, je veux dire, là, on se dit justement, on vient de se parler des chicanes du provincial avec le fédéral. Là. C'est 100 fois pire, là. T'es un pays, t'es souverain, t'es un chef d'État, là. T'es Emmanuel Macron. Tu t'en vas au Parlement européen puis tu dis je vais faire ça, puis tu te fais dire mais non, mon ami, t'as pas le droit de faire ça.
Ouais, c'est ça.
Hey man, je suis le boss de mon propre pays.
Donc, on est mieux de rester autonome, le Canada, puis de continuer à négocier des deals.
100%. Pour vrai, notre posture est pas mauvaise quand même. Là.
Hey, t'aimes bien suivre ce qui se passe chez les forces armées canadiennes. Il y a un dossier sur le site de Radio-Canada qui est intéressant, puis il se pose la question, tu sais, est-ce que les drones vont prendre de plus en plus d'ampleur? Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, dans les guerres, les drones maintenant sont de plus en plus présents. J'en parlais avec Max et Jeff ce matin sur Twitter. Il y a des vidéos de drones. Puis là, ça se passe souvent en Ukraine, là, bien entendu, où tu vois que le drone est à la recherche de soldats. Et là, il tombe sur des soldats qui pensent être des soldats russes. Et le drone commence à essayer de terroriser le soldat russe en tournant autour de lui. Puis après ça, paf, il s'en va foncer dessus. Puis le drone explose. Ça va être quoi la guerre dans 5 ans, dans 10 ans? Il n'y aura plus un gars sur le terrain. Ça va être des guerres de drones, des guerres de robots.
Oui, parce qu'ils commencent déjà justement à utiliser des robots terrestres là, pour aller chercher les blessés, puis même avec de l'armement sur le fameux T-1000, là, Terminator, puis tout ça, là, ils sont pas à pied encore, ils sont encore sur roulette. Là,
mais, ouais.
Sauf que le futur de la guerre, c'est difficile. Honnêtement, c'est pas une job facile d'être, Jojo Savard de l'armée, là, parce que personne au monde aurait prévu que la guerre en Ukraine, en ce moment, serait rendue comme ça. Parce que là, d'abord, l'Ukraine a vraiment résisté plus fort qu'on le pensait. Là, on en a parlé abondamment. Mais c'est devenu très, très, très numérique puis électronique là, comme guerre. Puis on a eu des drones qui étaient par radio. Puis là, finalement, whoop, ils se sont fait contrer par des contre-mesures. Parfait, on va mettre des drones avec un fil en arrière. Là. D'ailleurs, en Ukraine, il y a des endroits où il y a comme un pied d'épais de câble de fibre optique. Parce que le drone en arrière, dans le fond, il les laisse tomber. Puis là, t'as tout le temps le contrôle dessus parce que tu perds jamais les ondes. Tu comprends? Fait que, tu sais, toutes ces mesures-là, ça n'existait pas il y a 3 ans. Là, puis ça a été développé à cause des besoins de la guerre. Le Canada est au merveilleux moment pour penser à ces choses-là, par exemple, parce qu'on va se le dire, on n'a rien. Fait que là, on a une coupe de tanks, on a des groupes, des filles qui travaillent fort, là, si on se comprend. On a des F-18 qui tombent en marde, puis on a du F-35 de commandé. On va peut-être voir des sous-marins. Tu comprends? On est vraiment dans une espèce d'époque charnière où on tire de l'argent sur le problème pour le régler. Puis on a rien en arrière pour dire on est pogné avec des vieilles méthodes. Fait que là, c'est le temps de réfléchir à qu'est-ce que l'armée canadienne devrait faire. Puis, OK, mon avis vaut ce qu'il vaut. Là. Je suis zéro un vrai de vrai spécialiste là, militaire. Sauf que, à mon sens, l'armée canadienne qui se déploie sur tous les fronts avec tous les systèmes d'armement, ça se peut pas. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir une armée opérationnelle pour faire des grandes guerres comme ça. Donc là, on devrait, à mon sens, se spécialiser, devenir une genre d'armée boutique dans laquelle on aurait des forces spéciales qui sont excellentes au Canada. Le GTF-2 fait école partout. Puis les forces spéciales aussi, là, en tout cas, le CSOR. Après ça, ben, la guerre électronique, parce que ça, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de soldats pour faire beaucoup d'impact. Puis peut-être un autre volet. Fait que c'est-tu aérien, c'est-tu naval? Je pense que ça serait logique d'avoir quand même une force navale, mettons, territoriale qui est vraiment forte, des brise-glaces, des choses comme ça. Arrête ça là. Puis, tu sais, t'as une force conventionnelle pour faire des déploiements de paix, pis tout ça, là, mais va pas plus loin, là, tu sais, parce que là, renforcer toute l'armée de terre avec les tanks, puis là, les HIMAR, là, les missiles à longue distance, là, qu'on vient d'avoir la confirmation que ça va se fabriquer aux États-Unis, puis tout ouais. Ça, on va l'avoir en stock, mais on va en avoir 12. Fait que là, ben, ça va durer 32 heures, puis t'en auras plus, tu sais.
T'en auras plus du tout.
Hey, quand t'as les États-Unis qui sont en panique à ce moment parce qu'ils vont manquer de missiles Tomahawk, là, tu te dis que peut-être que toi aussi, tu vas en manquer vite.
On n'est pas en mesure de se défendre contre tout ça, tu sais. Puis j'ai vu, je pense que c'est Donald Trump, il était sur son terrain de golf, Jeff, puis il y a un membre du Secret Service qui était avec... on dirait que c'était gros comme un bazooka, ouais. Mais ça avait de l'air léger, là. Mais c'était pour neutraliser les drones. Fait que lui, il regarde le ciel, là. Le gars du Secret Service, il scanne le ciel. Si jamais il voit un drone, il est capable de le faire descendre avec son appareil. Puis il y a un autre appareil qui est testé maintenant, qui est sensiblement pareil. Ça s'appelle le Puissance Fractal One, qui peut porter des frappes chirurgicales sur des drones à 1 km de distance. Mm. Fait que là, c'est comme un gun spécialement conçu pour les drones, puis ça fonctionne avec un rayon laser. C'est fou, là!
Ben oui, c'est fou!
Ben, on va s'en aller là, tu sais. L'époque des drones ne sera pas très longue parce que c'est de l'électronique. Fait que tu peux toujours griller de l'électronique, là, mettons, le faire chauffer à distance. C'est juste qu'on n'était pas rendu là encore. Puis ces armes-là sont pas tant prouvées, là, tu sais, dans le sens que c'est les seules qui existent pour vrai, mais tu sais, l'efficacité de ça n'a pas été prouvée en théâtre opérationnel à ma connaissance. Fait que là, tu sais, c'est plus un symbole qu'autre chose. Donald Trump, qui était d'ailleurs au tournoi de la PGA à Doral, son resort en fin de semaine. Puis c'est drôle, ça avait l'air à bien aller pour la sécurité et tout ça, mais ça prend une salle de balle pour faire la soirée des correspondants. Mais sur un terrain de golf de 1 km² ou 2 km², non, ça
c'est tout est beau.
David Chabot, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir remplacé Denis à pied levé comme ça. C'est très, très, très apprécié.
Je dis toujours oui, les gars.
Denis sera là demain avec nous autres pour le Pit Stop à 7h55. David Chabot, merci.
Merci.
Bye, Max.
Sur la route, reste quelques points chauds. Les deux ponts direction nord, Henri-IV Sud, hauteur de la 40 et Capitale-Ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par...